confidentiel. RTL. Ophélie Meunier.
Bonjour Raphaël Baquet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RTL. Vous êtes journaliste, grand reporter au Monde, autrice. On vous doit une quinzaine d'ouvrages, le dernier en date, Succession, coécrit avec Vanessa Schneider chez Albin Michel. Une partie y est consacrée à la famille Bettencourt. Vous êtes une des rares personnes à avoir obtenu un entretien avec Françoise Bettencourt-Meyers pour Le Monde. Et vous faites partie des quelques témoins de la série documentaire sur Netflix sur les Bettencourt qui a fait grand bruit il y a quelques mois. Une présentation un peu exhaustive, mais en un mot, je pourrais dire qu'il n'y a plus grand-chose que vous ne sachiez pas sur cette saga Bettencourt. Ça vous va, ça?
Oui, si tant est qu'on pénètre toujours les cœurs et les âmes, mais oui.
Ouais. Ma première question, en ce début d'année 2024, Françoise Meyers vient d'être annoncée comme étant la femme la plus riche au monde, à la tête d'une fortune estimée à plus de 100 milliards d'euros, la fameuse barre des 100 milliards. Est-ce que ça reflète aujourd'hui, en 2020, en janvier 2024, l'intimité de la famille Bettencourt-Meyers? Est-ce que c'est une famille qui est aussi épanouie et heureuse que sa fortune estimée?
En tout cas, l'argent a pesé sur cette famille et pas au meilleur sens. L'argent ne fait pas les sentiments. Et ce qui pêchait dans cette famille, c'était justement le sentiment qu'avait la fille de ne pas être autant aimée qu'elle l'aurait désirée. Donc c'est vrai que ça a pesé sur eux.
Françoise Bettencourt-Meyers, cette grande discrète, hein, tout de même, parce que ça a été une saga médiatique pendant 10 ans. Hein, les affaires, ça a été les affaires Bettencourt. Malgré tout, elle reste comme étant une grande discrète. Enfin, on a vraiment le sentiment de pas du tout comprendre, de pas du tout palper en fait cette femme. C'est assez étonnant. Elle n'a pas souhaité d'ailleurs intervenir dans le documentaire Netflix. J'imagine qu'elle a été contactée. Vous savez pourquoi elle a refusé?
Elle refuse quasiment toutes les interviews. Lorsque je l'ai interviewée pour Le Monde, c'était tout à fait exceptionnel. Et d'ailleurs, j'ai mis plusieurs mois pour la convaincre.
Comment ça s'est passé?
Bah vraiment, j'ai plaidé ma cause. Et puis, elle était en plein maelstrom sur cette histoire de succession et de contestation de la place de François-Marie Bagnier.
Une rencontre qui, juste pour donner un peu les dates à nos auditeurs, donc le procès démarre en 2007, la bataille judiciaire démarre en 2007 et vous la rencontrez en 2012. Tout se termine en 2016. Voilà.
Exactement.
Comme ça, on remet un petit peu le...
Donc, en 2012, je la rencontre enfin, après avoir beaucoup écrit sur la famille. Je l'ai rencontrée chez elle, d'ailleurs, dans une espèce de tête à tête, sans conseiller, sans personne.
Mais il n'y avait personne autour de vous? Elle n'avait pas un conseiller?
Non, pas
comme
du tout.
Quelqu'un qui écoutait, qui vérifiait ce que vous demandiez?
Pas du tout.
Il y avait des conditions posées avant? Ne pas parler de ci ou de ça, ou une relecture?
Aucune. Et pas de relecture. D'abord, on l'accepte pas au journal, donc c'était convenu et elle a accepté ces conditions-là.
Ouais.
Et je dois dire qu'elle a été, elle mesurait ses mots, bien sûr. C'est pas une écervelée, loin de là. Mais enfin, elle a joué le jeu. Et c'était très intéressant aussi de la voir dans son intérieur, en fait, dans son intimité, parce qu'on imagine toujours que la femme la plus riche du monde vit forcément dans un extraordinaire château.
Alors,
c'était pas du tout le cas.
Il y a une petite phrase qui m'a fait sourire, qui m'a interpellée, parce qu'à un moment donné, donc vous lui parlez évidemment de son rapport à l'argent, et puis elle dit, mais regardez, enfin, je porte même pas de bijoux. Alors, c'est marrant, parce que c'est pas parce qu'on porte des bijoux qu'on est riche, mais on sent qu'en effet, elle a quand même très envie de se défendre sur le fait de pas du tout avoir une vie trop hors du commun par rapport, en effet, à cette fortune qui est complètement hors norme.
Je pense qu'elle a compris assez vite que l'argent était un danger. Donc, elle en jouit, bien sûr. Mais elle ne fait pas de démonstration ostentatoire de sa richesse. Et chez elle, cela correspond aussi à ça. C'est un bel appartement, bien sûr. Mais c'est un appartement de cadre supérieur. Mmh. C'est pas un appartement de milliardaire, comme elle l'est.
Elle n'était pas trop stressée?
Elle était très stressée. Ouais. Elle est très angoissée à l'idée d'apparaître. Elle était très angoissée par l'idée qu'on puisse la photographier. C'est une femme qui probablement ne s'aime pas autant physiquement qu'elle pourrait s'aimer. Voilà. Elle était très inquiète de ce qu'elle pourrait dire. Mais encore une fois, c'est une femme posée, intelligente. Il y a des tas de... Quand on est journaliste, évidemment, on repère la gêne des uns et des autres. Elle a un rire tout à fait presque tonitruant par rapport à ce qu'elle est. Elle est assez jolie, en vérité, et elle s'en l'est dit. Donc, elle est très austère.
Et puis même, ses grosses lunettes, enfin,
exactement.
Dégage quelque chose qui attire l'œil quand même.
Elle ressemble vraiment à cette actrice qui jouait dans Love Story, ou elle ressemble à Irène Papas, une autre actrice grecque. Elle pourrait être assez belle, mais elle cultive une austérité qui au contraire ternit sa beauté. C'est très frappant, d'autant qu'elle est l'héritière d'un groupe de cosmétiques qui vit entièrement sur la beauté féminine.
Ouais, et c'est une façon de se protéger, vous pensez ?
Oui, je pense que c'est une façon de rester en retrait. C'est une forme de contraste aussi avec ce qu'était sa mère, qui était d'une beauté éclatante et cultivée, au contraire.
Après publication du papier, est-ce que vous avez eu un retour ?
Non, pas directement. J'ai rencontré après Jean-Pierre Meyers tout à fait incidemment.
Donc, son époux ?
Voilà, son époux. Et non, c'est une famille... Enfin, d'abord, il n'y avait pas de raison d'exprimer un mécontentement ou un contentement. Ça ne servait plus à rien, à vrai dire, tout était publié. Donc, c'est une famille qui cultivait, en tout cas, s'est arrangée pour montrer qu'elle était assez libérale dans ce qui pouvait s'écrire sur elle.
Finalement, vous, en l'ayant rencontrée, suite à tout ce sur quoi vous avez travaillé, en une phrase, vous diriez Françoise Bettencourt-Meyer, c'est qui ?
Je pense que c'était une héritière qui a essayé de se débrouiller avec une fortune qui a complètement dénaturé les relations autour d'elle. On a toujours envie d'envier les gens très riches, mais en réalité, ça crée un soupçon pour vous. Est-ce que ceux qui vous entourent le sont parce qu'ils vous aiment ou parce qu'ils sont intéressés ?
Elle a eu ce soupçon pour son mari.
Toute sa vie, elle a eu
ce soupçon. Et de fait, elle l'a eu pour Bagné, qui a mené à l'histoire, évidemment, qu'on connaît. Donc ça, on n'est jamais tranquille avec ça, toute la vie d'une héritière comme l'est Françoise Meyers.
Oui, parce que c'est vrai que, c'est ce que disait sa mère, mais à partir d'une certaine somme, les gens déraillent, disait-elle.
Ouais,
c'est très vrai. C'est très vrai. Donc, on n'est jamais certain que les gens sont désintéressés.
Elle a 70 ans aujourd'hui, Françoise Meyers. Elle est apaisée tout de même, vous pensez ?
Oh oui, probablement. Ouais. D'abord, cette histoire est derrière elle. Elle a deux fils qui prennent la suite en tant qu'actionnaire. Donc, et elle peut probablement se consacrer à ce qu'elle aime le plus, c'est-à-dire la musique.
La musique, Bach, et puis la fondation aussi. Elle explique qu'elle...
C'est beaucoup son mari et ses enfants qui s'en occupent.
Ah oui.
Mais elle est au conseil d'administration et bien sûr, elle donne des orientations.
Elle est celle aussi de la vraie rupture, on l'explique dans le récit, avec les anciennes pratiques, notamment les petites enveloppes de cash. Elle a réglé toute la situation autour de la fiscalité du groupe. Ça, c'était quelque chose auquel elle tenait absolument, de vraiment... qu'il y ait vraiment un avant et un après avec son arrivée à la tête du groupe.
D'abord, je crois qu'elle y a été obligée. Elle y a été obligée à cause du scandale. Je ne suis pas certaine, je ne veux pas, je n'en sais rien, à vrai dire, puisque ça ne s'est pas passé, mais je ne suis pas sûre qu'elle aurait voulu d'elle-même rompre avec ses pratiques. Mais elle y a été obligée parce qu'effectivement, le scandale qu'elle a d'une certaine façon déclenché en contestant le rôle de François-Marie Bagné et de ce qu'il pouvait faire auprès de sa mère, a révélé à la fois l'exil fiscal, a révélé les dons en nature faits aux partis politiques. Et tout cela, elle a bien été obligée de rompre avec ses pratiques qui n'étaient pas les siennes, c'est vrai.
Vous pensez que ça a mis un coup de griffe un peu indélébile à la vie politique française, cette histoire ?
Je pense que ça correspond à une époque. Les Bettencourt n'étaient pas les seuls à financer les partis politiques.
Ouais.
Là, ça s'est vu de façon tout à fait spectaculaire, mais ils n'étaient pas les seuls. Mais à cette époque, c'est toute l'époque où, au fond, on prend des lois sur le financement des partis politiques, et l'affaire Bettencourt fait partie de cette vague d'assainissement, si je puis dire. Donc, aujourd'hui, effectivement, ça ne se ferait plus, en tout cas pas comme ça.
Elle protège beaucoup ses deux fils, hein, on vient d'en parler. Ils ont autour de 35 ans. À un moment donné, il va bien falloir qu'elle les mette un petit peu plus en avant si elle veut que l'histoire continue au sein même de la famille. Pensez qu'elle retarde cette échéance ? Elle a peur de les envoyer plus au front ? Et pourquoi pas, par exemple, commencer à répondre à des interviews ? Parce que ça va continuer, les sollicitations médiatiques pour les Bettencourt.
Ils ne le font pas, mais de toute façon, les Bettencourt n'ont jamais dirigé L'Oréal. Oui. Hein, ils ont toujours placé un PDG qui dirigeait à leur place. Ils sont dans le conseil d'administration, et ça, ils l'ont toujours été. Et les deux fils de Françoise Bettencourt sont entrés dans le conseil d'administration et donc jouent leur rôle d'actionnaire.
Ouais.
Donc, de ce point de vue, ils agissent, si vous voulez, pour le groupe, mais ils ne dirigent pas. Je ne peux même pas dire qu'ils travaillent vraiment dans le groupe.
Ouais.
Ils ont de petites sociétés, essentiellement dans la mode d'ailleurs, pour l'aîné, mais ils ont une vie vraiment d'héritier tout de même. Donc ce ne sont pas, c'est pas du tout la même chose que les enfants de Bernard Arnault, par exemple,
ouais, oui,
qui sont destinés à diriger et à remplacer véritablement leur père.
C'est de famille, évidemment, qui sont dans votre livre Succession avec Vanessa Schneider. C'est tellement différent.
Tellement différent, oui. C'est une éducation presque à l'opposé.
Comparable et à l'opposé, quoi.
À l'opposé.
Ouais.
Bernard Arnault a conditionné ses enfants à lui succéder et à travailler dans l'entreprise. Les Bettencourt, c'est au contraire.
Et les nominations à des postes de haute chefferie ne font que se succéder.
Non,
là.
Il dirige réellement et ils sont destinés à le remplacer, lui, qui dirige réellement son groupe.
Ouais, tout à fait.
Les Bettencourt, c'est tout le contraire.
Ouais.
Liliane Bettencourt, de la même façon, n'a jamais dirigé. Hein. Elle a fait une vague initiation à ce que produisait le groupe L'Oréal. Elle est allée dans quelques boutiques.
Oui, c'est
elle
ça.
Jouait une espèce d'incarnation du groupe L'Oréal, mais oui. Jamais elle n'a dirigé. Elle a toujours joué son rôle d'actionnaire au sein du conseil d'administration. Et sa fille fait de même.
Une famille d'héritiers avant tout. Pour comprendre les affaires Bettencourt, il faut, on l'a évoqué au début de cette interview, avant tout essayer de comprendre bien la relation très particulière entre la fille, donc Françoise, et la mère, Liliane. Quand on lit les médias, on se dit que c'est vraiment... je trouve froid, distant, compliqué. Quand on la lit dans votre interview avec elle, on a quand même le sentiment qu'elle a l'air de dire « Non mais attendez, ma mère et moi, ça va. » C'est quoi la vérité ?
En vérité, elle a follement aimé sa mère. Sa mère, sans aucun doute, l'a aimée, mais ne savait pas l'aimer. Il faut voir que la mère de Liliane est morte quand Liliane était enfant, 5
ans.
C'est difficile quand vous n'avez pas de modèle maternel vous-même pour l'être à votre tour.
Non, c'est sûr.
Donc,
c'est la seule école qu'on a finalement.
Exactement.
Dans la vie, hein,
et donc, elle-même a manqué d'une mère, et quand Liliane est devenue mère à son tour, d'une fille unique, d'un seul enfant, elle a été assez distante. Françoise Bettencourt avait toujours coutume de dire « Ah, j'étais avec elle comme une moule à son rocher. » D'accord, mais un rocher, on ne peut pas dire que ce soit spécialement affectueux. C'est la dureté et la froideur. Donc derrière cette image qu'elle voulait affectueuse, on voit toute la, c'est la métaphore de la distance qu'elle a eue avec sa mère. Et puis, il y a des choses qui relèvent de l'époque. Dans les années 60, il y a le petit Éric Peugeot, qui était l'un des héritiers de la famille Peugeot, a été enlevé. Ça a pesé beaucoup sur les grandes familles fortunées françaises. Et c'est vrai qu'à cette époque, du coup, les Bettencourt, Liliane Bettencourt et son mari, ont immédiatement retiré Françoise de l'école et l'ont envoyée aux États-Unis. Là encore, elle a été éloignée, pour son bien sûr, pour éviter tout enlèvement. Mais ça a achevé de distendre les relations entre elles. Et puis enfin, Françoise Bettencourt aussi a choisi un mari qui n'était pas forcément celui qu'auraient choisi ses parents. Donc ça arrive évidemment très souvent, et c'est heureusement. On peut s'émanciper du choix de ses parents, mais elle a choisi...
Mais encore une fois, si on replace ça dans le contexte de l'époque, c'était quand même...
C'est très important, à vrai dire.
Ouais.
Elle a choisi, certes, le fils d'un haut cadre de L'Oréal, mais la famille Bettencourt, et notamment Eugène Schuller, le père de Liliane Bettencourt, a eu un passé très particulier.
Oui. On le raconte assez ouvertement.
Et son passé dans la cagoule, avec l'extrême droite, dans la collaboration, évidemment, et avec une espèce de réputation d'antisémitisme réel, évidemment, pesait sur la famille. Or, Françoise Bettencourt a choisi un jeune homme juif, petit-fils et arrière-petit-fils de rabbin. Ce n'était pas du tout ce que les Bettencourt espéraient. Ils auraient préféré un catholique, un grand bourgeois catholique. D'ailleurs, les parents de Jean-Pierre Meyers non plus ne souhaitaient pas.
À l'inverse, avoir...
eux aussi, ils auraient préféré que Jean-Pierre Meyers choisisse une jeune fille juive. Donc, ça a été déjà une espèce d'émancipation imposée à ses parents.
Est-ce qu'il faut voir là le début de l'histoire de l'autre ? Françoise, si je puis dire, justement pas la discrète et pas la moule accrochée à son rocher, mais celle qui, aujourd'hui en effet, même si sa mère est partie en 2017, continue très bien d'écrire cette histoire et l'a même assainie, et aujourd'hui va très bien et s'affirme et n'a plus besoin de personne.
En tout cas, c'est une femme sans éclat, mais qui est extrêmement tenace. Et effectivement, le choix de son mari est son premier acte de liberté à l'égard de la famille. Et elle l'a imposé à ses parents.
Et quelle était la relation de Françoise avec André, avec son père ?
Elle a aimé ses deux parents et elle a accompagné son père jusqu'à sa mort. Mais ses deux parents étaient à la fois des mondains qui eux-mêmes étaient assez distants entre eux. André Bettencourt n'aimait pas les femmes. Aujourd'hui, c'est un secret de Polichinelle. Donc, il n'était pas non plus extraordinairement tendre avec Liliane Bettencourt.
Mais est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'André Bettencourt était homosexuel ?
Oh oui, ouais. Je pense qu'on peut le dire.
Ouais.
Donc, et Liliane Bettencourt, de son côté, était une femme à la fois extrêmement mondaine, très belle, intelligente, mais délaissée d'une certaine façon et assez seule. Ce qui explique d'ailleurs le succès qu'a eu François-Marie Bagné en arrivant dans la famille.
Ça explique évidemment beaucoup la suite de l'histoire. Quand la bataille judiciaire est lancée en 2007 contre Bagné, précisons d'ailleurs qu'il ne s'agit pas là tant d'héritage et d'argent au départ que de Liliane qui commence enfin à être un peu aimée, à être émoustillée, je peux dire ce mot, par François-Marie.
La très grande force de François-Marie Bagné, c'est son esprit. Il est très drôle. Il est très drôle, très insolent, sans respect des conventions bourgeoises. Donc, le contraire, d'une certaine façon, de Liliane Bettencourt. Ouais. Et quand il arrive, c'est vrai que c'est une espèce de vent frais qui arrive dans ce merveilleux hôtel particulier, mais qui en même temps est archi-confit. Y a très peu de fantaisie qui circule. Et il va l'emmener partout. C'est assez intéressant d'ailleurs sa façon de faire, parce que lui aussi est un homosexuel revendiqué. Or, il ne cesse de parler à Liliane comme une princesse, avec tous les mots de la séduction d'un homme à l'égard d'une femme. Il la flatte
ces
de
mots,
cette façon.
Je vous, dans leurs échanges, je vous embrasse jusqu'à vous en décrocher la mâchoire. Enfin, c'est quand même fort de dire ça. Enfin,
il joue au galant.
C'est pas les mots d'un ami. Enfin,
non, pas du tout.
Moi, je reçois pas ça.
C'est une espèce de fiancée platonique.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est l'idéal, à vrai dire, pour la famille Bettencourt. Mais il joue cette séduction.
Ami, amant, les deux.
Non, mais il est pas du tout amant.
Ouais.
Il joue à cela. Et elle, qui est au fond assez seule, ça lui plaît beaucoup. Puis il est très amusant, il faut bien le dire. Donc c'est un très bon compagnon. Le problème, c'est que lui n'est pas désintéressé. Et je pense que Françoise Bettencourt avait raison quand elle l'a accusé d'abuser de sa mère. Il n'est pas désintéressé et il avait déjà utilisé les mêmes techniques avec une autre femme, Madeleine Castaing, à laquelle il s'était fait donner des œuvres d'art exactement de la même façon.
Et donc là, des cadeaux, et des cadeaux, et des cadeaux, jusqu'à près d'un milliard d'euros de cadeaux. Moi, la question à laquelle je n'ai vraiment pas la réponse aujourd'hui, c'est comment, dans la tête de François-Marie Bagné, qui quand même a l'air d'être quelqu'un de pas dénué de sens non plus, comment il se dit, pas à un moment donné, mais ça va finir par se voir.
Oui, il aurait dû s'arrêter, et s'il s'était arrêté à temps, ça n'aurait pas fait scandale.
Non mais votre réaction me rassure, je me dis, mais c'est possible à un moment donné.
Non,
évidemment,
bien sûr,
ça va finir par se voir.
Parce que
ça l'a rendu fou, quoi, à un moment.
Oui, lui-même il a été pris par l'émerveillement devant son propre empire, l'empire qu'il avait sur cette femme. Et donc, effectivement, il n'a plus su s'arrêter. Mais il faut dire qu'autour de Liliane Bettencourt, personne ne savait s'arrêter.
Oui, c'était pas le seul.
Tout le monde lui réclamait des cadeaux.
Et visible à la fin, mais c'était pas le seul.
Et on lui réclame pas un petit cadeau. Des membres de son personnel lui réclament des appartements. Vous voyez, on lui réclame pas juste j'adorerais, j'ai besoin de 1000 euros. Non, on lui réclame beaucoup, à la mesure de sa fortune.
Ouais, c'est ça.
Mais les gens ne savent pas s'arrêter. Et François-Marie Bagné, disons qu'il a poussé cette espèce d'emballement à l'excès. Mais il n'était pas le seul.
Il s'en sort quand même plutôt bien.
Il s'en sort très bien.
Non mais face à tout ce qu'il a reçu, donc on le redit, il a écopé de 4 ans avec sursis sans passer par la case prison. L'annulation de ses 158 millions d'euros de dommages et intérêts à verser à la famille Bettencourt. Il peut donc garder l'argent et, en sus, les dons. C'est quand même sacrément bizarre que ça se termine comme ça.
Ça s'est terminé comme ça pour deux raisons. D'abord parce que, effectivement, l'abus de faiblesse, ou en tout cas, est basé sur est-ce qu'elle était encore en état d'être lucide ?
Lucide sur ses décisions.
Or, la décision de la placer sous tutelle arrive très tard. Mm. Donc, tout ce qui a été donné avant est difficile à contester. Et au bout d'un moment, Françoise Meyer se met en cours devant le scandale à lâcher. Et elle a préféré lâcher cette somme très importante, mais enfin qui n'amoindrit que très peu son héritage, hein, il faut bien le dire. La plupart des les choses les plus importantes lui avaient été données bien avant. Donc c'est pas vraiment une question d'argent pour elle, c'est plutôt une question à la fois d'amour symbolique et puis même elle a clairement vu quelqu'un qui abusait de sa mère et elle avait raison, encore une fois. Je me souviens très bien qu'une partie de l'opinion publique disait « Après tout, Liliane Bettencourt est riche, ça n'a pas d'importance. » D'accord, mais c'est quand même l'abus, il a abusé d'une vieille dame.
D'une vieille dame, oui, il faut le redire de manière aussi basique parce que c'est le cas et ça pourrait être le cas pour beaucoup d'autres personnes âgées. Elle a vraiment eu peur qu'on lui prenne sa place, Françoise, d'enfant, à un moment donné, avec François-Marie.
Mais il faut le dire qu'il en a été question, puisque François-Marie Bagnier, ne se contentant pas seulement des extraordinaires donations et cadeaux et libéralités que lui faisait Liliane Bettencourt, a voulu se faire adopter par elle. Mmh. C'est-à-dire, donc, devenir son fils. Rentrer non seulement dans la succession, mais rentrer symboliquement dans la famille.
Mais il a vraiment cru que ça allait se passer. Enfin,
en tout cas, il l'a tenté.
Il l'a tenté.
En tout cas, il en était question. Ça n'est pas allé jusqu'au bout, mais c'est à cause de cela.
Je serai le fils que vous n'avez jamais eu.
C'est à cause de cela que Françoise Meyer-Bettencourt réagit.
Mmh. Oui, c'est d'ailleurs vraiment ça qui achève de la convaincre qu'il va pas falloir que ça continue comme ça. L'argent rend donc fou à tous les niveaux, même quand il y en a tellement qu'on n'a plus besoin de s'en soucier d'un point de vue matériel, l'argent restera toujours un sujet.
Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses et qui deviennent fous à l'idée d'accumuler des richesses qui, au fond, sont à un tel degré... Ça ne sert plus à rien. Une fois que vous avez une maison, un appartement, une belle voiture, que
dans
vous voyagez,
c'est la situation.
Ça n'a plus de sens. Ouais. Ça n'a plus de sens.
Plus besoin de rien.
Ce n'est pas seulement ça. C'est une question de pouvoir, je crois. Et là, François-Marie Bagnier pouvait mesurer le pouvoir qu'il avait sur cette femme et sur son entourage à partir de ces millions et de ce milliard.
Ce que raconte cette histoire aussi, c'est que mine de rien, quand on s'ennuie, même si on a beaucoup d'argent.
Oui, c'est vrai. On a quand même plus de moyens pour essayer de tromper son ennui. On peut voyager, sortir, mais oui, on peut quand même s'ennuyer mortellement.
Ça a une limite. On retient surtout le volet politique et familial et financier de cette affaire. Clairement, moins le sujet de la vulnérabilité des personnes âgées. Vous le regrettez, vous qui avez beaucoup travaillé sur cette enquête?
Oui, j'ai été frappée. D'ailleurs, je pense que la presse, au départ, a fait une erreur sur François-Marie Bagnier. Elle a pensé que c'était, bon, d'abord un trublion charmant, puis une sorte de Robin des Bois. C'était pas un Robin des Bois. D'abord, il était lui-même assez riche. Et puis, encore une fois, il avait déjà tenté d'abuser d'une vieille dame. Et donc, évidemment que Liliane Bettencourt était si riche que ça n'avait pas tellement d'importance qu'elle distribue les millions. En tout cas, pour elle, ça ne changeait rien à son train de vie. C'est le principe qui est particulier. Mmh. C'est d'abuser effectivement de la faiblesse et de la sénilité, puisqu'il faut bien prononcer ce mot. Peu à peu, elle a perdu sa lucidité. Elle, qui était une femme tout à fait maîtresse d'elle-même, elle a peu à peu effectivement été affaiblie, amoindrie, au point de ne plus savoir exactement ce qu'elle faisait.
Et c'est pourtant pas ce qui reste de cette histoire et de cette affaire. Loin de là.
Non. Parce que le volet politique a pris le dessus. Or, le volet politique, si vous le regardez, évidemment, c'est un problème, et notamment l'exil fiscal et les dons en nature, c'est évidemment. Mais si vous voulez, les dons qui ont concerné, par exemple, Nicolas Sarkozy, mais la même chose pour Mitterrand, c'est 150 000 euros. C'est sans comparaison avec 1 milliard d'euros pour François-Marie Bagnier.
1 milliard d'euros. Liliane Bettencourt est décédée donc en 2017. Au-delà de L'Oréal, qu'est-ce qu'elle laisse, elle, comme héritage intime à sa famille et notamment à ses deux petits-fils? Qu'est-ce qu'il garde? Il voit, la valeur du travail, même si, en effet, on le disait, ils ont une vie d'héritier. Qu'est-ce qu'il garde comme héritage intime? ces deux garçons.
D'abord, c'est eux qui pourraient vous le dire mieux que moi, mais elle a incarné l'entreprise. Je ne parlerai que sur le plan professionnel.
Ouais.
Elle l'a incarné. Elle n'a jamais travaillé à l'intérieur de L'Oréal, mais elle en était l'image.
Ce slogan, parce que nous le valons bien,
oui.
Je m'inclus, hein. Non, mais est indissociable de ce nom Bettencourt et de cette femme. Quand même.
Exactement. Et elle a incarné cette entreprise qui était basée sur la beauté. Elle était très belle, c'est vrai. Elle était très élégante. Elle était aussi cultivée, très mondaine. Elle a existé dans le Paris des années 60, 70, 80. Donc, elle laisse ça, une image très forte de femme, en tout cas séduisante, sinon heureuse.
Et sur le passé collaborationniste, notamment d'Eugène Schueller, est-ce qu'on sait quel impact ça a aujourd'hui sur le moral, en tout cas, Françoise et de ses deux fils? Est-ce qu'on sait que c'est quelque chose d'encore lourd à porter aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont réussi?
Ah oui, mais ils ont agi.
Ouais.
Ils ont agi. Ouais. C'est-à-dire que dès que
Jean-Pierre
Meyer s'est arrivé dans la famille et avec
a mis un bon coup de balai.
Le soutien absolu de Françoise Bettencourt, ils ont évincé tous ceux qui faisaient partie de cette époque. Ils ont vraiment rompu avec les restes de cet antisémitisme et de ce passé collaborationniste.
L'histoire a pris fin, en tout cas d'un point de vue judiciaire, en 2016. Une série documentaire sort sur Netflix fin 2023. Elle cartonne. C'était plutôt inattendu. En tout cas, c'était pas annoncé comme étant le succès de la rentrée de Netflix. Pourquoi, à votre avis, cette famille attise toujours autant la curiosité, fascine toujours autant?
Parce que c'est une famille qui, en tant que telle, d'ailleurs, n'est pas tellement connue, mais elle a une position symbolique. Cette bataille entre une mère et sa fille, au fond, c'est un sujet éternel. Je crois que...
Et universel. Ouais.
Et universel. Personne ne peut évidemment s'identifier à une telle fortune. Tout le monde peut s'identifier à des sentiments semblables. Et donc, c'est ça qui intéresse les gens. Est-ce qu'on est un enfant mal aimé ou pas? Est-ce qu'on est capable de s'émanciper de ses parents? Est-ce qu'on est capable de les sauver puis de les tuer d'une certaine façon? Évidemment, ça a un retentissement dans chacune des familles que nous connaissons et les nôtres.
Je rappelle que vous faites partie des témoins de ce documentaire. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous étiez contente du résultat? Je sais que, autre témoin, Ariel Dombal, qui est une amie depuis de longues dates de Françoise Meyers, était moins contente du résultat final. Elle l'a fait savoir. Comment ça s'est passé pour vous, Raphaël Baquet?
Moi, très bien. Je trouve que le documentaire est très bien. Il donne une très grande part à la politique, mais je le comprends. Je le comprends. Je pense que, mais ce n'est pas lié au documentaire, c'est lié aux écoutes. François Barry Bagnier a de la chance de ne pas figurer sur les écoutes. Comme il rencontrait Liliane Bettencourt dans sa chambre, où il n'y avait pas ce petit enregistreur que le majordome déposait, on ne l'entend pas. Et donc, on n'entend pas la façon dont il a installé son emprise sur Liliane Bettencourt.
Vous voulez dire par là que ça aurait pu être terriblement accablant pour lui?
Ah oui, je pense qu'il s'en sort bien.
Ouais.
Oui, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile.
On peut aller jusqu'à dire que l'affaire Bettencourt, indépendamment de ces sommes folles qu'on a évoquées, est aussi tout simplement l'histoire d'une famille française.
Oh, c'est une famille tout à fait particulière, mais en tout cas, l'abus que peut subir une vieille dame, oui, chacun peut le connaître dans sa famille. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait universel. Les relations entre une mère et sa fille, c'est tout à fait universel. Donc, le contexte est exceptionnel. Personne, d'ailleurs, n'est aussi riche que la famille Bettencourt, bien sûr. Mais la réalité des sentiments, elle se retrouve partout ailleurs.
Un petit peu plus de 10 ans plus tard, si vous étiez à nouveau face à Françoise Meyers, de quoi auriez-vous envie de lui parler en premier, Raphaël Baquet?
De l'éducation qu'elle a donnée à ses fils. Je pense que je suis intéressée par cela. Je pense qu'elle les a certainement éduqués avec le souci de leur droiture morale, mais Je suis étonnée qu'elle les ait moins éduquées au travail. Et ça m'intéresserait, moi-même en tant que mère d'ailleurs, mais je trouve que c'est une question qui se pose à toutes les familles, et plus encore quand on est très riche. Mmh. Comment fait-on justement pour ne pas générer l'oisiveté, puisqu'on n'a pas besoin de travailler?
Quand on n'a pas besoin de travailler.
Donc j'aimerais beaucoup discuter de cela avec elle, et voilà. C'est la question primordiale que je lui poserai.
On serait ravis de vous recevoir si vous le faites un jour pour que vous nous racontiez les coulisses de cette interview. Merci beaucoup, Raphaël Baquet, journaliste, grand reporter au Monde, autrice, le livre donc, dont on parle dans le récit. Merci de nous accorder cet entretien et la possibilité de le citer, c'est Succession, coécrit avec Vanessa Schneider et publié chez Albin Michel. Est-ce que vous voulez qu'on annonce votre prochain ouvrage?
Oui, si vous voulez. On s'est intéressé avec Samuel Blumenfeld à Gérard Depardieu, bien sûr, sur lequel nous avions écrit une grande série pour le journal, et nous avons poursuivi l'enquête. Mmh. Et donc, on publiera un livre sur cet homme, à la fois grand acteur et homme beaucoup plus discutable, sur cette espèce de d'autodestruction. Hein. C'est presque l'anatomie d'une chute.
Ouais. Rendez-vous aux Oscars aussi. Sortie prévue ?
En avril.
En avril. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir sur RTL. À bientôt.
Merci.
Et merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel, la saga Bettencourt. Un numéro fait en équipe avec Dany Matouk à la réalisation, Thomas Pierre à l'écriture et Marie-Caroline Mandon à la programmation et à la production. Je vous rappelle que tous les autres épisodes de Confidentiel sont disponibles à tout moment sur RTL.fr ou sur l'appli RTL.
RTL. Confidentiel.